Tempore.
Ce temps-là. Le temps du voyage et le temps du repos. Le temps de l'amour et le temps de la solitude. Comme il était au début, maintenant et à jamais.
Novembre tire à sa fin.
L'ocre partout s'est glissé.
Dans les frondaisons.
Les nuages jusque dans la transparence de l'air,
comme une couleur de terre dans le ciel,
comme une évaporation des taches rousses du goémon au-dessus de la mer émeraude,
comme une émanation de la rouille des fougères sur le talus,
éloquence muette perçue au plus secret de l'âme,
mouvement des mondes qui veut se faire musique.
Un jour, Abdullah, bourreau de son état, se vit signifier, était-ce à Bagdad, qu'il lui incombait, le lendemain à l'aube, de décapiter le maître.
L'histoire pourrait s'arrêter là. Comme tant d'autres, à peine commencée et déjà chassée dans les oubliettes par le déferlement des affaires qui se bousculent pour captiver notre attention et nous tenir en haleine. Après tout, Abdullah n'est qu'un insignifiant rouage, anonyme exécuteur de basses œuvres dans une pièce où ses semblables sont pléthores, même s'il fait consciencieusement son métier de passeur. Passeur de vie à trépas, vous m'aurez entendu, et garde son sabre bien affûté, fort de la certitude qu'il est le serviteur d'une finalité irrévocable qui, pour tous, vient à son heure, à sa façon.
Mais le feu qui brûle dans l'âtre, le vin rubis soigneusement mûri dans la cave et le silence de cette nuit solitaire d'automne m'invitent à dévider la pelote et vous conter l'histoire inouïe d'Abdullah et du maître dont il allait lui falloir trancher la tête avant que le soleil ne dissipe les ténèbres et que l'aube ne blanchisse l'horizon.
Abdullah connaissait le maître. Sa silhouette alerte et sans apprêt lui était familière. Enveloppé d'une djellaba de laine brune qui peinait à l'envelopper, apparaissant ici et là, sur le marché, dans les faubourgs et les cafés du port, à la mosquée et sur les places, désœuvré mais ne s'attardant jamais plus que de raison, attentif à chacun et avare de jugement. Une présence éphémère et inattendue qui décrispait les visages, éclairait les regards et faisait jaillir le rire. Chose rare et incongrue en cette époque où la tyrannie avait posé sur les cœurs une chape de plomb. La disette régnait. Les arrestations et les disparitions frappaient sans raison. Nul n'était à l'abri et c'était comme si chacun se cachait derrière son ombre pour échapper au couperet. La peur, le désarroi, l'impuissance s'était emparée de tous. Terrible fatalité à laquelle seul échappait le maître. Toujours égal à lui-même, vivant de peu, serein, jovial et sans entrave.
« Cela n'aura qu'un temps,
disait-il.
Le tyran se bat contre le vent. Ne vous souciez pas de lui, il se nourrit de votre peur. » L'ennemi qu'il déteste, c'est lui-même. S'il veut gagner, il faudra qu'il arrache son propre cœur.
Il faut croire que ces remarques parvinrent jusqu'au palais, car les sbires s'emparèrent du maître à la tombée du jour et le jetèrent dans une geôle. Et il me fut signifié que je devais venir au petit jour lui trancher la tête.
Je n'en étais pas à ma première décollation et gardais mon sabre bien affûté. J'avais vu plus d'une tête rouler dans la sciure, mais aucune comme celle du maître, avec ses traits burinés de terre cuite, son sourire énigmatique, son regard vif et généreux. Le maître était si solide, si compact, si lumineux à sa façon, que je me voyais mal le raccourcir, comme on dit dans le jargon. Ça me posait comme un problème technique, à vrai dire. Allez donc fendre un éclair, un rayon de lune. Je mis sous ma djellaba une outre de mon meilleur vin, mûri par les ans, et, à la brune, me rendis à la prison, où je connaissais tous les geôliers. Le maître était assis dans un cul de basse fosse, et la voix qui m'accueillit dissipa d'emblée la pénombre.
« Salut, Abdullah. Tu arrives de bonne heure. Nous avons la nuit devant nous, et je vois que tu as apporté ce que ta cave recelait de meilleur. Prends place à mes côtés, et verse-nous à boire. Devisons, et voyons si nous parviendrons à briser la coquille où nous nous croyons enfermés. »
Je remplis sa coupe et la mienne. Après avoir humé le vin, nous les vidâmes avec des claquements de langue appréciateurs. Je les remplis à nouveau. Maître, j'ai apporté mon sabre. Vois comme il est tranchant. Je suis si habile à mon métier que je puis couper une mouche en plein vol entre les deux ailes et rengainer mon sabre dans le même mouvement avant que les deux moitiés ne retombent au sol. Demain, tu seras cette mouche. Ainsi en a décidé le destin.
Tout beau, mon ami. À peine es-tu entré chez moi et m'as-tu servi de coupe que tu veux dégainer ton sabre? Que ne l'emploies-tu à autre chose qu'à couper des mouches en deux? Permettez ici au narrateur d'intervenir. N'est-il pas libre après tout d'agir à sa guise et tout d'abord de se servir un autre verre et de relancer le feu qui s'endort dans l'âtre? Nous avons là, face à face, dans l'air vicié et le silence épais d'une geôle humide et ténébreuse, où la voix humaine prend une sonorité insolite et solennelle. Abdullah le bourreau de Bagdad, honnête homme s'il en fut, et le maître homme libre sans affaires, en parfaite osmose avec l'instant présent. L'enjeu est de taille, vous en conviendrez. Peut-être sera-t-il l'occasion d'un fructueux dialogue philosophique avant que le jour se lève, que l'outre soit vide et que le maître pose sa tête sur le billot.
Maître, je suis ton serviteur. Pardonne mon impétuosité. J'étais impatient de te voir et de sonder ton cœur.
Il bat le plus sereinement du monde.
Le plus sereinement du monde.
Pulsation, pulsation après pulsation.
Après pulsation. Entends-tu les rats qui s'affairent autour de nous? Il me parle des hommes de la cité qui vaquent à leurs occupations, pressés par des urgences qu'ils se sont inventées, enfourchant leurs chimères comme des destriers pour la bataille. L'un se consume d'amour et souffre mille tourments.
L'autre, obnubilé par des pacotilles, ne s'aperçoit pas que l'univers entier est une perle brillante et accumule les biens dont il n'a pas l'usage.
Celui-ci ne pense qu'à sa réputation.
Et celui-là qu'à la vengeance.
Tous sont empêtrés dans d'invraisemblables stratégies du mensonge,
de la flatterie,
de la jalousie et de la rancœur.
Quelques-uns,
et ce ne sont pas les pires,
ont soif de justice et de beauté, et tournent leur quête vers la pureté,
la 16, ou je ne sais quel anéantissement qui ferait d'eux des élus.
Tout ce brouhaha me parvient comme un bourdonnement à travers les épaisses murailles du caveau où tu me tiens compagnie. Il m'étoile à l'oreille, comme le son cristallin des gouttes d'eau qui tombent de la voûte et le va-et-vient enfiévré des hommes dans la cité.
Il met doux à l'oreille
son reflet
comme
dans
son
la
cristallin des gouttes
des ombres
d'eau qui
sur
de
les
la
parois
voûte.
Qui nous entourent.
Et le va-et-vient enfiévré des hommes dans la cité trouve son reflet dans la danse des ombres sur
de
les parois qui nous entourent.
Loin,
à la lumière blafarde qui sourd de la lucarne,
au-dessus
loin
de
au-dessus
nos
de nos têtes,
et sur le,
et
chemin,
sur le chemin
de ronde
où
veillent
nos gardiens.
Maître, serais-tu si désabusé que plus rien ne puisse t'atteindre, ni la méchanceté du tyran, ni le sourire d'un enfant, ni l'arrogance des nantis, ni la grâce d'une jeune fille, ni la lune sur le fleuve, ni le ciel matinal? Je comprends alors que tu ne craignes pas la mort. Elle mettra fin à ton ennui. Le sourire à peine esquissé, que je devinais sur les lèvres du maître, envahit tous ses traits, et l'éclat qui traversa son regard avait quelque chose de diabolique.
Abdullah, mon ami, donne-moi le bonheur et je le prends sans réserve. Apporte-moi la souffrance et je l'accepte en toute égalité, dans sa plénitude sans écho, sans résonance ni distorsion. L'un comme l'autre ne trouvent en mon cœur nul endroit où se poser et faire leur nid. Je te disais tout à l'heure d'utiliser ton sabre à bon escient. Tu es passé maître dans l'art de trancher les têtes. Pourquoi ne coupes-tu pas celle que tu as au-dessus de la tienne, qui passe tout au crible de ses opinions et de ses goûts, et sans arrêt te dit « Ceci est bon, cela est mauvais, attrape ceci, rejette cela !» Alors que ceci et cela ont déjà disparu, emportés par le flux incessant du temps, et que l'instant nouveau, l'instant toujours neuf, insaisissable et frais comme l'eau vive, est en train de t'échapper. Je suis comme toi. J'aime les filles au rire ironique et gracieux, le chant des oiseaux au petit matin, et celui de la vague sur le sable, le vent dans les arbres, les fleurs sur la prairie, la fraternité et les jeux de l'esprit autour de la coupe que remplit les chansons. La souffrance me fait mal, l'injustice me peine. Qu'importe, je suis là, au centre de moi-même et du monde, à mesure qu'il se déplace.
Je restais un temps silencieux, absorbé, désarçonné, comme coupé en deux. Une partie de moi-même apaisée, réconciliée, et l'autre dépité, avide de s'approprier une certitude à peine entrevue, qui déjà lui échappait. Maître, mon ami, l'heure avance. Ne veux-tu pas revoir une dernière fois le firmament et les lumières de la cité? Marcher dans les rues au milieu de tes semblables, prendre ta place à la taverne, commander une jarre de vin rubis, rire avec les filles, faire l'assaut de hardiesse et d'esprit avec les marchands, les portefaix, les noceurs et les mauvais garçons? Les geôliers me connaissent. Si je leur promets de te ramener avant que les derniers lambeaux de la nuit ne soient dissipés et que le coq ne chante, ils se contenteront de ma parole et me confieront la clé.
À ta guise.
Rapidement, nous franchîmes la lourde porte qui se referma derrière nous.
La nuit était tiède et bleutée.
Nous descendîmes vers la cité dans un silence que seul rompait le cri des vigiles et celui des oiseaux de nuit qui leur faisait écho.
Le maître marchait d'un pas souple et léger, regardant les étoiles et le ciel immense, l'ombre des bosquets, des vignes, des vergers et des oliveraies endormis dans le lointain, le chemin caillouteux qui dessinait une saignée plus claire au-dessous de nous.
Nous atteignîmes les faubourgs sans rencontrer âme qui vive.
Je pressai le pas par les ruelles étroites et tortueuses, sachant où je me dirigeais. La taverne des 40 voleurs, où j'avais mes quartiers, connaissait les filles et les musiciens et la joyeuse faune qui s'y ébattait jusqu'à l'aube.
Nous entrâmes.
L'air était opaque à la lueur des lampes à huile.
Les serveuses, alertes et graciles, s'empressaient autour des tables basses, remplissant les coupes et les narguilés.
Les conversations faisaient un bruit de fond semblable à celui de la mer, dans une grotte, entrecoupé d'éclats de rire.
Les musiciens, assis sur la natte qui couvrait leur estrade, tout au fond de la salle, mêlaient les notes perlées du oud et du santour aux pleurs du violon, portées par le rythme du tambour.
Aux senteurs de l'opium se mêlait celle du vin et le parfum capiteux des filles.
À peine franchie la porte, on redressait les chines, happés par cette atmosphère flottante de fêtes improbables qui sollicitait tous les sens et agissait sur l'esprit comme un aiguillon.
Notre entrée passa inaperçue, sauf de quelques noctambules qui nous saluèrent d'un regard ou d'un signe de la main, et de Baba, le patron, qui d'un geste du menton nous désigna la porte ouvrant sur le patio, où il nous rejoignit dès que nous eûmes trouvé une table où nous asseoir, près du bassin de mosaïque, où ruisselait l'eau claire entre les nénuphars.
Salut maître, salut Abdoula. Content de vous voir. J'ai justement reçu une outre de vin clairé de Tyr, qui me ferait plaisir de vous offrir. En plus du oud, du santour, du violon et des percussions, nous avons aujourd'hui une chanteuse belle comme le jour, à la voix de sirène. Ma maison est la vôtre.
Petit à petit, des amis vinrent se joindre à nous. Les conversations s'engagèrent, chaleureuses et décousues, à mesure que les coupes et le narguilé passaient de main en main. Une friture de poisson du tigre apparut sur la table. Le rire des filles sonnait clair et joyeux et la flamme noire de leurs yeux dansait. Le maître était dans son élément, détendu, attentif à chacun, souriant de ce sourire qui n'appartenait qu'à lui, chaleureux, franc, mais empreint d'une réserve, d'une noblesse énigmatique dont il ne se départissait jamais. Sa présence dénouait les langues et les cœurs, et chacun, comme libéré de son fardeau, comme replongé dans la fraîcheur de l'enfance, apparaissait tel qu'en lui-même. Non pas que par quelque prodige notre aimable et disparate assemblée se fût changée en une congrégation de saints. Les atrabilaires avaient toujours la teigne, les mélancoliques et les hypochondriaques la larme à l'œil, les paons se pavanaient, les sournois gardaient le regard en coin, les amoureux soupiraient et les lubriques se penchaient au-dessus des décolletés.
Heureux autant qu'on peut l'être, j'avais oublié la fuite rapide des heures et la triste besogne qui m'attendait. Le dos appuyé sur un coussin, je laissais mon regard errer parmi les étoiles, la tête pleine de musique et de vapeur de vin.
Le brouhaha peu à peu se fit lointain et je cessais soudain de le percevoir.
Tous les sens en alerte, comme happés par un vide qui s'ouvrait sous mes pieds, je tournai la tête. Le maître avait disparu.
Malédiction ! Comment ai-je pu être aussi naïf ? Il a profité de ma distraction. Pourquoi aurait-il attendu benoîtement l'heure de poser sa tête sur le billot ? Il a filé, et je ne le retrouverai jamais. Demain, c'est ma propre tête qui roulera dans la sciure.
Pris de panique, je me levai d'un bond et me précipitai dans la galerie qui bordait le patio, écartant les rideaux à la volée pour fouiller du regard la pénombre des chambres. Partout des couples enlacés ou affalés dans un lourd sommeil, des hommes qui buvaient et jouaient aux dés, des ivrognes qui ronflaient. Et puis mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Le maître était là, seul dans une chambre, assis jambes croisées sur un coussin, à la lumière d'une bougie. Son corps était bien droit. Un sourire ineffable éclairait son visage serein, qui ne regardait rien. Sa présence, dense et légère, emplissait toute la chambre.
Je restais figé sur place, saisi, jusque dans la moelle de mes os. Le maître sembla revenir à lui-même. quittant comme à regret les espaces infinis où son esprit voyageait.
Abdullah, tu fais bien de venir. L'heure arrive et nous allons nous esquiver discrètement. Demain, tu salueras tout le monde de ma part et tu remercieras notre hôte.
Dit-il en se levant sans hâte.
Nous reprîmes le chemin de la citadelle, gravissant la colline en silence, tandis que bleuissait la nuit.
Nous marchions d'un pas alerte, le cœur léger.
Les étoiles brillaient, mon âme chantait.
Les étoiles brillaient, mon âme chantait, et j'étais le maître, tout autant que le maître, et que depuis la nuit des temps et de toute éternité, instant après instant, je tranche la tête du maître d'un geste sans défaut, et jaillit de son gerbe de fleurs.